Ce matin, j'ai introduit notre prédicateur pendant qu'il s'approche, Ariel Allemand. Peut-être certains d'entre vous le connaissez depuis des années, puisque ça fait 16-17 ans qu'il est à l'Église, qu'il grandit depuis son adolescence ici à l'Église. Il a marié une fille de l'Église, il a eu des enfants ici à l'Église, il y en a 4 maintenant. Ils n'ont pas eu dans le baptiste, là, parmi nous, on va dire, hein? Et Ariel est depuis quelques années avec moi, avec les boys. Vous connaissez les boys? Levez la main ceux qui savent c'est quoi les boys. Parce que les boys, ils savent c'est quoi. Les boys, c'est une rencontre. On fait pas les mêmes activités que le film Les Boys. Je vais juste spécifier ça, là. C'est pas pareil, là, OK? Là, même si c'est le même nom, c'est pas la même affaire. C'est important en partant, OK? Mais c'est un groupe d'hommes que je réunis avec le pasteur Jocelyn Aubut qui apporte justement les poils plus gris, plus blancs de sagesse au groupe et dont la contribution est tant appréciée. Et on réunit une quinzaine d'hommes à tous les mois pour stimuler leur leadership, pour les aider à conquérir, dans le fond, le leadership que Dieu a pour eux, autant dans leur foyer que dans l'Église, qu'au milieu de travail, que dans leur vie de père et de voisin, etc. On veut stimuler leur leadership et qu'ils puissent devenir les hommes que Dieu veut qu'ils soient comme leaders. Et donc, on veut aider ceux qui veulent être dans la louange à trouver leur place, ceux qui veulent être les enseignants qui aspirent au diaconat, qui aspirent au pastorat, à trouver leur place. Et Ariel fait partie de ceux-ci. Et Ariel est avec moi depuis 2 ans dans notre groupe thématique. Il participe à l'enseignement avec moi-même et Philippe Menosier. Et ce matin, c'est lui qui va apporter la parole. Ça s'inscrit ici dans une démarche aussi que le conseil pastoral fait pour aussi former des hommes pour l'avenir et former de la relève, des hommes qui vont prendre la relève dans tous les sphères de leadership de l'Église. Et donc, c'est dans ce contexte-là que s'inscrit la présence d'Ariel. Il est compétent, il étudie en théologie, il fait sa maîtrise en théologie à Montréal.
Je commence.
Tout en fait, il commence, il veut spécifier qu'il commence, là, mais ça fait longtemps qu'il lit de la théologie.
Ça va être bon pareil. Là.
Et il est conseiller financier à la Caisse depuis quelques années. Alors, accueillons-le chaleureusement.
Merci, merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Ça sort dans les speakers? Bon, super, je vais m'approcher ça ici. OK. C'est imposant quand même d'être en avant. Et quand même, c'est un privilège pour moi de vous partager un petit peu un texte des Écritures. Je veux en profiter pour remercier l'Église, un peu comme Joël mentionnait, qui me soutient dans les études, puis qui me donne l'occasion là, de vous faire profiter de ce que j'apprends, puis qui me forme à travers tout ça. Puis ma prière ce matin, c'est que ça vous soit aussi bénéfique pour vous. Et c'est autant un privilège pour moi ce matin, un 6 octobre, en plein automne, où les feuilles sont en feu dehors, parce que ça fait exactement 12 ans que justement mon épouse et moi, Lisanne, on est mariés. Et on s'est rencontrés ici même, dans cet auditorium, fait que ça fait spécial. Je l'avais écrit sur ma feuille pour ne pas l'oublier. Ça, c'est important de ne pas oublier ça. Et malheureusement, elle n'est pas avec nous ce matin parce qu'elle faisait partie de l'événement où Mélanie a reçu son bébé. Donc, fidèle à elle-même, au service des autres. Elle a passé la nuit donc à aider Mélanie pour son accouchement. Et donc, ce matin, je poursuis la série que Joël a commencé dans Genèse. On a vu dans les dernières semaines Joël qui nous a partagé chapitre 1 et 2. Et ce matin, on va toucher au chapitre 3. Vous voyez le titre, l'origine du mal. Et donc, c'est un gros morceau, c'est un chapitre important. Et quand Joël m'a proposé un dimanche matin pour vous apporter la parole, il m'a donné 2 choix. L'action de grâce, je pouvais aller avec le sujet de mon choix, ou m'attaquer à Genèse 3. Puis, c'est pas un hasard, je pense, le Seigneur m'avait formé au printemps à étudier la nature de Dieu, la création et la chute. Et je pense que c'est pas un hasard. Donc, c'est un gros morceau, l'origine du mal et de la souffrance. Le mal qu'on subit, par exemple la maladie, mais aussi celui qu'on cause, le péché. Ça peut être un sujet lourd. En même temps, le chapitre de Genèse est simple, mais à la fois, il y a tellement de stock qu'on peut en tirer, méditer. Dans un texte qui peut paraître assez mythique, symbolique même, mais je crois qu'il est écrit que ce qui est écrit en Genèse, ça s'est produit tel qu'on nous le rapporte dans les Écritures. Que le livre est historique, mais en même temps, comme on le voit dans plusieurs autres textes des Écritures, il y a souvent un sens plus profond, symbolique, et l'histoire qu'on lit représente des réalités qui sont aussi spirituelles. Un serpent qui parle, qui aura une descendance, qui va lutter avec la descendance des hommes. Un arbre dont le fruit donne de la connaissance. Donc, on va creuser un peu ça ce matin ensemble. Il y a une spirale aussi dans le texte qu'on va voir à partir du fin du chapitre 2, où les événements se produisent à partir de Adam. Ensuite, on voit Ève, le serpent est introduit. Ensuite, on voit ce qui se passe avec le serpent, Ève, Adam. Dieu intervient et l'histoire reprend avec Adam, Ève, serpent, dans cet ordre-là. Et ça finit finalement à l'inverse. Donc, il y a une spirale dans le texte. Et il y a aussi, on voit les conséquences que Dieu applique à la chute de l'homme. Et chacune des conséquences reflète un peu ce qui a été fait par chacune des fautes. Donc, chapitre 3, l'humanité prend toute une débarque. L'humanité, avec un grand H, a failli. L'homme a fait entrer le mal, la mort et la souffrance dans le monde. C'est donc, à mon sens, un des chapitres les plus importants pour comprendre pourquoi le monde est tel qu'on le voit aujourd'hui. Et les conséquences qu'il a reçues, on les subit aussi aujourd'hui. Ça pose déjà une grande question. Pourquoi la Bible me dit que je subis aujourd'hui les conséquences de ce qu'Adam et Ève ont fait? Pourquoi est-ce que je dois subir la même mort qu'eux et qu'à cause de cette chute, c'est impossible pour moi de faire parfaitement le bien et être juste devant Dieu? Je sais très bien que chacun individuellement, on fait des fautes volontairement et que c'est suffisant pour être jugé par Dieu. On ne peut pas se présenter devant Dieu et dans notre conscience se sentir parfaitement juste. Bien, peut-être certains y arrivent là, mais je pense que ce n'est pas la majorité. Et je comprends aussi que dans sa présence, il ne peut pas y avoir de mal. Il est le Dieu juste et bon. Mais Genèse 3, quand on lit comme il faut, ça ne dit pas justement que le péché est entré dans le monde à cause d'Adam. C'est pas à cause d'Adam qu'on est rendu justement pécheur. Paul nous dit en Romains 5, au verset 17 et 18, « Par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. » Et un petit peu plus loin, il va dire « Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. » Est-ce que ça sonne juste à vos oreilles? C'est une grosse question. Dans le fond, comprendre le chapitre 3, c'est important aussi pour expliquer la bonne nouvelle à nos familles, à nos collègues de travail. Pourquoi est-ce qu'ils sont condamnés devant Dieu? Pourquoi est-ce que Christ est nécessaire? Pourquoi est-ce que Christ est nécessaire s'il pouvait faire le bien que Dieu demande? Donc, ça nous aide aussi à comprendre pourquoi on agit comme on agit et les motifs de notre cœur. Le texte en lui-même, brut, il ne donne pas nécessairement toutes les réponses. Il raconte les événements qui se sont produits, mais il faut méditer avec le contexte puis le reste des Écritures pour nous aider à y voir plus clair. Et je ne prétends pas ce matin que je vais vous donner toutes les réponses, mais je peux vous partager certaines pistes en espérant que ça va vous donner des outils pour continuer à cheminer avec Dieu. Parfois, comprendre la maladie ou la source du problème, c'est le premier pas vers la guérison. Donc, deux principales vérités que je vous propose de regarder ce matin, l'origine du mal, mais aussi la culpabilité humaine à travers ça. Comment est-ce qu'on la comprend bien? Donc, ça, c'est censé fonctionner. C'est-tu le gros bouton en haut? Ah, voilà. Donc, problème du mal, c'est sûr qu'on touche à des événements qui se produisent, qui nous font réfléchir. La première photo que vous voyez, photo célèbre qui a fait le tour du monde. Donc, un enfant mourant sur le point de se faire attaquer par un vautour. Donc, qui représente aussi les famines que l'Afrique ont connues. Un économiste suisse, Jean Ziegler, avait écrit que l'économie actuelle pouvait nourrir 13 milliards de personnes et que chaque enfant qui mourait de faim était un enfant assassiné, principalement à cause de la spéculation boursière, c'est ce qu'il défendait dans ses livres. Le photographe a pleuré devant la scène et a même parlé à Dieu. Et en 1994, il s'est enlevé la vie. Il a écrit « Je suis hanté par de vifs souvenirs de meurtre, des corps, de la haine, de la souffrance. » On peut se dire que c'est éloigné de nous comme situation, mais au Québec, et c'est sorti dernièrement dans les nouvelles, on a atteint le cap des 100 000 signalements à la DPJ, le cap historique, dont plus de 40 000 ont été retenus. Pas un, pas cinq, 40 000. Et un cas qu'on a vu récemment dans les nouvelles, et on va revenir un petit peu plus tard, un Montréalais, Sofiane Gazi, est accusé d'avoir poignardé sa conjointe qui était enceinte de 9 mois avec une fourchette à viande à 19 reprises. Et même de le nommer, hein? Pourquoi est-ce qu'on est dans un monde où ce genre d'événement peut se produire? Comment on peut agir avec tant de cruauté? D'où vient qu'il est si naturel pour l'homme de faire le mal, souvent dans les petites choses, mais aussi trop souvent dans de grandes choses? Quels sont les impacts du mal dans nos vies et comment comprendre Dieu à travers ça? Vous savez, il s'agit ici d'un des arguments qu'on entend le plus souvent pour nier l'existence de Dieu. Je l'ai déjà entendu à mon travail, peut-être vous l'avez déjà entendu aussi. Comment se fait-il qu'il y ait dans ce monde tant de mal alors qu'il y aurait un Dieu parfaitement bon et tout-puissant à son origine? S'il est bon et tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas le mal? C'est même un des éléments repris dans plusieurs philosophes pour nier Dieu. Il était à la limite capable d'accepter que les adultes qui font consciemment du mal peuvent vivre la souffrance, mais il n'arrive pas à résoudre le problème de la souffrance des enfants. Je vous lis une citation d'un auteur que j'ai lu cet été. Dostoïevski, c'est un auteur russe, catholique, orthodoxe, rassurez-vous, je ne vais pas vous lire en russe. En parlant de la chute et des conséquences de la chute, qui dans le fond Dieu donne des conséquences par justice et pour rétablir l'harmonie, c'est le mot qu'il utilise pour parler de la justice de Dieu. Il écrit, si tous doivent souffrir afin de concourir par leur souffrance à l'harmonie éternelle, quel est le rôle des enfants? On ne comprend pas pourquoi ils devraient souffrir eux aussi au nom de cette harmonie. Pourquoi serviraient-ils de matériaux destinés à la préparer? Je comprends bien la solidarité du péché et du châtiment, mais elle ne peut s'appliquer aux petits innocents. Et si vraiment ils sont solidaires des méfaits de leur père, c'est une vérité qui n'est pas de ce monde et que je ne comprends pas. Cette harmonie ne vaut pas une larme d'enfant. C'est par amour pour l'humanité que je ne veux pas de cette harmonie. C'est intéressant comme pensée. Et ce n'est pas nécessairement sa pensée personnelle. C'est une pensée avec laquelle il luttait et qu'il représentait à travers ses personnages. Mais il lutte quand même, dans un certain sens, avec cette idée de la justice de Dieu. À plus petite échelle, ça peut être votre cas. Peut-être entre certains d'entre vous, vous vivez des situations difficiles et que vous n'arrivez pas à comprendre avec un Dieu qui, on annonce, bon. Un conjoint, une conjointe qui vous a abandonné, qui a abandonné la foi, un enfant qui a abandonné la foi, un parent ou un enfant malade, un proche qui s'est enlevé la vie, qui a des problèmes de drogue ou de boisson, des problèmes dans votre couple, des problèmes financiers, des enfants élevés seuls. Des fois, ça fait difficilement du sens. Peut-être est-ce que vous avez une réponse à ça qui vous aide à traverser cette épreuve-là, mais peut-être vous n'avez pas de réponse non plus. Donc, je vous invite à prier avec moi. Seigneur Dieu, je veux simplement te remercier pour ta parole qui nous éclaire. Et merci de nous guider, Seigneur. Merci d'être la source de notre vie. Et merci d'être un guide aussi, Seigneur, pour arriver à y voir plus clair dans le monde, à comprendre ce que tu veux pour nous, ce qui est bien, Seigneur, et ce qui est mal. Et bénis encore, Seigneur, ce message ce matin. Amen. Donc, ce matin, je vais survoler le chapitre 3, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans le chapitre, et Joël va revenir dans quelques semaines sur certains aspects qu'il voulait aborder avec vous, ou c'était peut-être pour me corriger, puis il ne me l'a pas dit, là. Donc, Genèse, établie dans ses trois premiers chapitres, l'origine du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Après avoir parlé de l'origine de la création, de la nature qui nous entoure dans les deux premiers chapitres, la loupe des Écritures se resserre sur la création de l'être humain. Et ensuite, sur 46 chapitres, l'emphase sera mise sur les générations qui suivront ce premier couple, Adam et Ève, pour à chaque fois se concentrer sur une seule descendance précise qui nous mènera jusqu'à Jacob et ses fils, Joseph, qui constitueront le peuple d'Israël en Égypte au début de l'Exode. 46 chapitres pour suivre une descendance précise. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas manquer. On n'a pas suivi l'histoire de tous les descendants, mais une seule lignée. On a vu certains cousins, cousines ici-là, pour ceux qui ont en mémoire le livre des Genèses, Ésaü ou Ismaël, mais reste que le récit principal, il se concentre sur une lignée précise. Pourquoi cette lignée est si importante? Je pense que la plupart vous connaissez la réponse. On l'a passé. Ici. Donc, c'est vraiment un thème important dans Genèse. On le voit débuter au chapitre 2, verset 4. « Voici l'origine du ciel et de la terre. » Mais le mot pour « origine » peut être traduit par « engendrement » de façon plus littérale, ou dans tous les autres versets qui vont suivre, va être traduit par « postérité ». Chapitre 5, verset 1. « Voici la postérité d'Adam. » Chapitre 6, verset 1. « Voici la postérité de Noé. » Chapitre 10, verset 1. « Voici la postérité des fils de Noé. » Ainsi de suite. Ensuite, le livre de Genèse va passer 13 chapitres où on va voir la relation entre Abraham et Dieu, où Dieu annonce une promesse importante à Abraham que par sa descendance, toutes les nations vont être bénies. Mais au chapitre 3, ce thème des générations ou des descendances est abordé pour la première fois. Le début de l'histoire de ces descendances est annoncé sous la forme d'une guerre entre deux descendances que nous allons examiner de plus près. Donc, je vous résume les grandes lignes du texte, parce qu'on ne prendra pas tout le temps de le lire, je vais en lire quelques portions là, par la suite. Donc, un nouveau personnage nous apparaît, le serpent, il remet en question la parole de Dieu sur ce qu'il avait défendu au chapitre 2, soit de manger l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Jamais le serpent va proposer directement à Ève de manger du fruit défendu, mais elle va en prendre quand même, en donner à Adam, puis les deux vont avoir honte de leur nudité. Ils vont se cacher en se couvrant de feuilles. Dieu intervient, il questionne Adam et Ève, il applique des conséquences à chacun, incluant le serpent. Adam explique le nom d'Ève, Dieu va changer ensuite leur habit et Dieu va prononcer un jugement final. J'aime le schéma là, que je vous présente au PowerPoint. Donc on a au verset 1 à 5 la tentation, verset 6 à 7 la chute, verset 8 à 13 on a l'interrogatoire, versets 14 à 19, les conséquences. Versets 20 à 21, la miséricorde. Et versets 22 à 24, le jugement. C'est intéressant de noter que le récit prend la forme d'une faute commise suivie d'un tribunal. Il y a un événement qui se passe. Ensuite, les témoins se font entendre, puis une sentence est prononcée. Après que le livre de Genèse nous a présenté un Dieu créateur, un Dieu d'amour, un Dieu artiste dans sa création, on voit au chapitre 3 un Dieu qui juge en prenant en considération les faits. Dieu, il connaît les faits, mais il nous fait savoir qu'il en tient compte. Dieu n'est pas arbitraire. Donc, je commence ma lecture au verset 25 du chapitre 2. Pourquoi je commence un petit peu plus haut dans le chapitre? Bien, on se rappelle que le texte original... Il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset. C'est des repères pour nous aider à nous replacer, mais je pense qu'il y a un beau parallèle entre ce qui se passe au verset 25 et par la suite l'introduction au chapitre 1. Et c'est certain, ce jeu de mots-là qu'on voit, c'est par rapport à l'aspect de la nudité qu'Adam et Ève ont et la ruse du serpent. On lit, donc chapitre 2, verset 25, « L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Et le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le mot qui est ici utilisé pour nu est dans le texte Arumim ou dans sa racine Aram, tandis que le mot pour rusé est Arum. C'est très proche, les deux mots ensemble. Et le mot pour rusé, on le voit une seule fois ici en Genèse. Il est utilisé ailleurs, dans les Proverbes, où il est utilisé plusieurs fois, puis il y a un sens positif, le sens de prudent, perspicace, judicieux, intelligent même. Mais ici, on le traduit plus comme en Job, où est-ce qu'il y a un sens plus négatif, une ruse, surtout parce qu'on voit dans la suite du récit ce que le serpent a fait. Mais ça serait difficile de trancher, là, vraiment, est-ce que le sens ici est négatif ou péjoratif, mais je pense qu'il y a des indices par la suite qui nous aident à voir que le sens serait plutôt positif. Parce que si le sens, premièrement, est négatif, bien, ça voudrait dire que tous les animaux avaient cet aspect-là négatif en eux, parce qu'on lit dans le texte, il était le plus rusé de tous les animaux, donc tous les animaux avaient cet aspect-là. Mais ça cloche plus ou moins avec ce qu'on entend du récit de la création, parce que tout ce que Dieu avait créé, c'était bon. Fait que c'est pas nécessairement négatif ici. Je vais vous lire les passages qu'on va plus cibler ce matin. Donc je vous lis versets 1 à 7. Et dans le fond, les passages que je vous lis, c'est vraiment les passages sur lesquels on se concentre. Donc, le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea et l'en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Je saute par la suite, versets 14 à 19, où on voit les conséquences. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles et c'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Et il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles et tu mangeras l'herbe de la campagne et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et je saute au verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. » L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Et après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. Je commence par le serpent. Le livre de Genèse, au complet, nous parlera très peu pour nous en dire plus sur le serpent. Tout ce qu'on sait, ou tout ce qu'on va remarquer dans le texte, c'est qu'il est un ennemi, un menteur. Il connaît l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ses effets. On voit qu'il aura une descendance mauvaise et qu'il sera un animal maudit. C'est le reste des Écritures qui vont nous aider à l'identifier clairement. Apocalypse 12:9 nous dit « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » On voit la même chose dans Apocalypse 22 et Il y a beaucoup de parallèles entre le livre de Genèse et le livre de l'Apocalypse. Et dans les premiers versets qu'on a lus, et c'est ce que je veux mettre l'emphase surtout aujourd'hui, il y a une emphase vraiment importante sur l'impact du fruit défendu, et je pense que c'est vraiment un élément crucial à comprendre. À plusieurs reprises, le texte qu'on a lu souligne « Leurs yeux s'ouvrent, ils acquièrent de la connaissance, l'intelligence s'ouvre, il apporte quelque chose à l'humanité, il n'enlève pas, il n'empêche pas, il n'empêche pas l'homme de faire le bien, ni le force à faire le mal. » On n'a pas d'indication ici que de manger de l'arbre du fruit défendu a changé la nature humaine. Un être humain avant la chute, c'est un être humain après la chute. Est-ce que je suis en train de dire que la chute n'avait pas d'impact sur le genre humain? Absolument pas. On va y revenir, il y a un impact crucial. Avant, je reviens avec vous. Je suis tout le temps une diapo en retard, hein? Je reviens un petit peu sur la justice de Dieu et son jugement. Je trouve intéressant quand même de noter que, de voir comment Dieu questionne Adam et Ève. Il les pousse à admettre leur faute. Il leur glisse pratiquement la réponse à la bouche quand il demande « Qui t'a appris? As-tu mangé de l'arbre? » On les voit au verset 7 à 13. Et Dieu, il sait ce qui s'est passé. Il fait juste nous montrer ce qu'il cherche. Dieu cherche la confession. Et avez-vous remarqué ce que Dieu fait avec le serpent? Il pose pas de questions au serpent. Est-ce que c'est surprenant? Dieu, il sait ce qui s'est passé. Pour le serpent, comme pour Adam et Ève, ça démontre encore que Dieu cherche la confession, sachant lui-même très bien ce qui s'est passé. Il connaît le serpent. Le serpent n'a pas la chance de répondre à Dieu. Et ce qu'on remarque dans les malédictions qu'on a lues ou les conséquences des versets 14 à 19, le serpent est le seul qui est maudit. Il n'y a pas de malédiction prononcée par Dieu envers les êtres humains. Seulement le serpent et la terre, le sol. Et c'est très rare de voir dans les Écritures Dieu maudire directement. Il y a vraiment un sens très fort. Le serpent, le fait que le serpent est appelé à ramper sur son ventre est une caractéristique qu'on voit plus loin en Lévitique 11 de l'animal le plus abominable quand Dieu dresse la liste des animaux qu'il interdit de manger à Israël. Et je ne rentrerai pas non plus ce matin là, dans les théories à savoir si le serpent avait eu des pattes avant la chute, après, hein, le sens de la phrase ici, à savoir qu'il se met à ramper, je pense que ce n'est pas l'emphase qui est mise par le texte. L'emphase est vraiment mise sur le fait qu'il est maudit et qu'il devient, en quelque sorte, l'animal le plus abominable, je pense, dans un sens qui est symbolique. Et il y a un renversement intéressant à noter de ce que le serpent était. Il passe du plus rusé au plus maudit. Regardez la tournure de phrase. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et quand Dieu le juge, il dit « Tu seras maudit entre tout le bétail. » Il passe donc, par rapport à tous les animaux, du plus rusé au plus maudit. Pour le verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Encore une fois, je pense qu'il y a un sens aussi qui est plus fort que juste l'image du serpent qui est ici. Parce qu'on sait qu'un serpent, ça ne se nourrit pas de poussière. C'est pas leur nourriture, normalement. Et on sait bien aussi que le serpent n'a pas de descendance littérale. Mais il y a une descendance du serpent qui est rebelle à Dieu et qui combat contre la descendance d'Ève. Le mal nous fait la guerre. On peut se rappeler les paroles de Jésus qui appelle les pharisiens « race de vipères ». Donc, il y a un parallèle difficile à éviter aussi. entre la conséquence de l'homme qu'on a lu, tu es poussière et tu retourneras poussière, donc Dieu qui annonce la mort, et la nourriture du serpent, qui est cette même poussière. Et depuis le début de la Genèse, l'homme est constitué de cette poussière-là. Peut-être qu'en d'autres mots, le serpent se nourrit de la destruction de l'homme. Dieu condamne le serpent à avoir pour nourriture le fruit de ses actions, l'homme qui l'a cherché à détruire. Et donc Dieu annonce une hostilité de longue durée entre la descendance d'Ève et celle du serpent. Toutes les conséquences qu'on voit des versets 14 au verset 19 sont observables à chaque génération. Et le langage hébraïque, il peut être aussi bien ici traduit par descendance, la descendance immédiate ou les descendances à venir. Mais le contexte global de Genèse, qui se centre sur les descendances du premier couple, et par l'évangile de Matthieu, qui retrace la généalogie de Jésus-Christ jusqu'à Adam, je pense qu'on peut y voir clairement une introduction à la victoire de Jésus-Christ à la croix, et que cette descendance-là qui est finale, qui écrasera la tête, c'est Jésus-Christ. Déjà avant le 3e siècle avant Jésus-Christ, les Juifs voyaient dans ce passage-là une annonce claire du Messie qui était promis. Jean 3, 8 nous dit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Et Romains 16, 20 « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Et il y a un aspect super important que je veux qu'on voit ce matin, c'est que dans Genèse, le lecteur original qui lit ce texte-là, ce qu'il attend comme Messie, c'est un humain, un être humain, pareil comme vous et moi, un descendant d'Adam et de Ève. Et je vais sauter les conséquences plus spécifiques qui sont adressées à Ève et à Adam, parce que je pense que je vais manquer de temps. Mais je veux noter, comme je vais vous le présenter juste ici, pour reculer. Oh, là. Ah, OK, oui, ici. Ce que je veux qu'on retienne pour les conséquences, c'est que toutes les conséquences ont un aspect physique, mais un aspect aussi relationnel. Combat entre les descendances, combat entre l'homme et sa femme, et combat de l'homme dans son travail. Mais on arrive à un point crucial. La conséquence du péché et l'origine du mal est due qu'il y a aussi, dans le jugement de Dieu, une séparation d'avec Dieu, comme on a lu au verset 22 à 24. Par la mort et le fait que Dieu a chassé l'homme hors de son jardin. Le péché a apporté la séparation d'avec Dieu et la séparation de Dieu amène le péché. Et d'être séparé de Dieu, ça fait notre affaire. Aujourd'hui, on peut le voir encore. L'homme veut la liberté de prendre ses décisions sans Dieu, choisir ses valeurs ou même choisir de ne pas en avoir. L'homme veut être le guide de sa propre vie et c'est de plus en plus mal vu d'être guidé par un livre vieux de 2000 ans. On est guidé par plus que ça, mais je paraphrase. Personne ne veut se laisser quoi dire, quoi faire par la Bible. Mais la personne qui place sa foi en Dieu a réellement un choix à faire. Est-ce que je me soumets à Dieu ou non? Est-ce que je décide pour ma propre vie? Et c'est ce que le monde nous invite à faire. Prenez-le, le fruit. Laissez faire la béquille. Ce n'est pas une religion qui va nous dire quoi faire. Et donc Dieu chasse l'homme et l'exil de son jardin, et par la mort, l'homme est aussi séparé de Dieu, qui est la source ultime de la vie. Et rapidement, je veux simplement vous mentionner que le jardin d'Éden, c'est une symbolique aussi qui était très forte, représentant la présence de Dieu. Par le fait que Dieu expulse l'homme de son jardin, comme n'importe quel membre qui péchait dans le peuple d'Israël pouvait être expulsé. Et Dieu mentionne, je vais vous les lire parce que c'est important. Maintenant que l'homme, verset 22, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu reconnaît que ce que le serpent avait proposé à Ève, il y avait du vrai, mais il y avait aussi beaucoup de faux. Mais Dieu reconnaît quand même cet aspect-là. Ils ont acquis la connaissance du bien et du mal. Et à cause de ça, Dieu dit, évitons qu'ils tendent la main pour qu'ils prennent aussi de l'arbre de vie en manger et vivre éternellement. Pourquoi cette connaissance a-t-elle cette conséquence? Pourquoi l'homme doit-il mourir ayant acquis cette nouvelle connaissance? On sait que Dieu, tout ce qu'il avait créé, était bon. Adam et Ève, ils faisaient pas le mal avant d'avoir acquis cette connaissance-là. Ils étaient guidés par Dieu. L'arbre défendu a ouvert leur intelligence. Il a donné de la connaissance du bien et du mal. Il a rendu l'homme indépendant de Dieu du point de vue moral. On veut faire nos choix. Et même à la limite, on veut faire le bien par nous-mêmes. Et c'est là qu'est le problème. On va être maître de nos propres vies libres. Donc je vois que le péché est de rechercher une liberté morale indépendante de Dieu sans avoir à se soumettre à Dieu. Connaître le bien et le mal, c'est pas mal en soi, parce que Dieu a cette connaissance. Verset 22. Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, Dieu avait cette connaissance-là en lui. C'est pas une chose qui est mauvaise en soi. Mais qu'est-ce qui est mal? C'est d'avoir acquis cette connaissance en dehors de l'autorité de Dieu. Il y a deux valeurs en opposition, mais qui ne sont pas nécessairement mauvaises. Est-ce que l'homme choisit la relation avec Dieu, qui inclut cette soumission-là, l'unité, ou est-ce que l'homme choisit la liberté, l'indépendance morale? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme sans Dieu ne peut pas gérer cette liberté. Gérer le bien et le mal, ça prend la puissance de Dieu et ça prend sa sagesse. Sans cette puissance, l'homme est attiré vers le mal et je vous donne trois raisons pourquoi. Première raison, parce que Dieu est la source inévitable de notre vie, le soutien de tout ce qui existe. Et le soutien de nos vies, du point de vue moral aussi, c'est lui qui le guide pour qu'on puisse savoir ce qui est bien et ce qui est mal et le gérer. Dieu a créé l'homme à son image, de la poussière du sol, mais avec son souffle, sa respiration en nous, nous donnant la vie. Dans le texte, il est le « je suis ». À chaque fois que vous voyez la traduction « l'éternel », c'est celui qui est. De lui, on tire notre être. On est lié à lui parce qu'il nous aime, mais aussi parce que c'est comme ça qu'il nous a créés. Il a mis dans la création que c'était nécessaire d'être attaché à lui. Acte 17, 28, je vous le lis, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et en parlant de Christ, Colossiens 1, 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et moralement même, Jacques 1, 17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jésus, dans le même ordre d'idée, en Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et Luc 18, 18, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Et Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Si donc on est détaché de Dieu moralement et qu'on est détaché de la source du bien, mais tout ce qui nous reste, c'est le mal. Et le mal a pour conséquence la mort. Mais je vous rappelle que ce n'est pas parce que nous sommes moralement ou de la façon qu'on est fait après la chute, il n'y a rien en nous qui nous force à faire le mal. Ce qui fait qu'on se dirige vers le mal, c'est qu'on est détaché de Dieu, parce que c'est lui qui est la source du bien. Aussitôt la connaissance du bien et du mal acquise et chassée du jardin, l'homme tue son frère, Caïn et Abel. Et bientôt, au chapitre 6 de Genèse, On lit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Mais ce n'est pas qu'ils sont naturellement mauvais, mais bien plus du fait qu'ils ont été chassés de l'arbre de vie et de la source du bien, Dieu lui-même. Et troisième conséquence, si Dieu n'est plus notre guide concernant le bien, nous le sommes donc chacun pour nos propres vies. Chacun se fait Dieu, chacun décide de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et ce que ça amène au bout du compte, c'est que la notion de bien et de mal perd tout son sens, puisqu'il n'y a plus de cadre de référence. Si Dieu n'existe pas, pourquoi est-ce que je ferais le bien? Puis pourquoi est-ce que j'éviterais le mal? Il n'y aura pas de conséquences non plus. Chacun fait ce qu'il veut, et ça peut seulement amener au chaos. Comme on le voit dans le livre des juges, un exemple de ce qui se passe quand il n'y a plus de cadre de référence pour juger de ce qui est bien et de ce qui est mal. Le livre répète à plusieurs reprises, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et c'est pas joli ce qui se passe. En juge. Je reviens avec le cas que je mentionnais un petit peu plus tôt. Et je vous lis un article du journal qui a rapporté les événements. Parce que ça vient rejoindre ce que je vous mentionne un petit peu plus tôt. On dit que le procès, donc de l'homme qui a poignardé sa femme, durera 5 semaines et les procureurs de la couronne envisagent de présenter une 40aine de témoins en cours, dont une biologiste, une pathologiste, des médecins. Il dit « Rappelons que la loi canadienne, selon la loi canadienne, un enfant doit être sorti du ventre de sa mère pour être considéré comme une personne. À 9h, 1 minute et 5 secondes, le fœtus de 9 mois est dans le ventre de sa mère. Il n'a aucun statut juridique. Aux yeux de la loi, il n'est pas plus important qu'un amas de cellules. À 9h, 1 minute et 15 secondes, il est sorti du ventre de sa mère. Il a des droits, il est considéré comme une personne et si jamais quelqu'un le tue, cet individu sera inculpé de meurtre. C'est comme ça au Canada. La loi ne fait aucune différence entre un amas de cellules, un embryon de quelques semaines, un fœtus de 4 mois ou un fœtus de 9 mois. Tant que tu n'es pas sorti du ventre de ta mère, tu n'as aucun droit, tu n'es rien. Bref, s'ils arrivent à prouver que le bébé est bel et bien mort une fois qu'il est sorti du ventre de sa mère, M. Ghazi pourrait être condamné pour meurtre. Mais si la défense prouve que le bébé est mort alors qu'il était dans le ventre de sa mère, il pourrait s'en sortir. Voie de fait grave. Donc l'homme s'embourbe dans toutes sortes de problèmes de jugement moral si on ne reconnaît plus le standard divin de dignité à l'homme dû à sa création et à son image de Dieu. On est des cellules évoluées qui n'ont pas de valeur. Et c'est même un problème que les philosophes reconnaissent, que si on rejette Dieu, il faut trouver un cadre à respecter. Il faut trouver une base pour faire le bien, sinon on s'en va n'importe où. Puis à ma connaissance, je n'ai pas trouvé de fondement moral pour écarter Dieu de la vie humaine. J'en cite un qui a écrit « Si l'on ne croit à rien, si rien n'a de sens et si nous ne pouvons affirmer aucune valeur, tout est possible et rien n'a d'importance. Point de pour ni de contre. L'assassin n'a ni tort ni raison. Malice et vertu sont hasard ou caprice. L'homme sans chef suprême ou sans soumission à Dieu se fait Dieu de sa propre personne au détriment des autres. On écrase son prochain quand il n'y a pas d'autorité reconnue. » Et même un d'entre eux, Kant, a écrit ou a dit que pour lui, en Genèse 3, Adam, dans le fond, il n'a pas chuté, il n'a pas fait tomber l'humanité. Au contraire, il l'a libéré. Il voyait, il y avait une lecture biblique, disons, mythologique. Et pour lui, donc, Adam a fait un bon choix en choisissant la liberté au lieu de la soumission à Dieu qu'il trouvait cruelle, qui condamne ceux qui ne peuvent atteindre ses standards. Donc, j'en reviens à cette question. Est-ce que Dieu vraiment nous demande l'impossible? Maintenant qu'on est détaché de lui et incapable de faire le bien, on fait quoi? Pourquoi Dieu me condamnerait-il alors que je ne suis pas en mesure d'accomplir ce qu'il demande? Mais le problème de la question, c'est le « par moi-même ». Dieu ne nous a jamais demandé d'accomplir parfaitement ses standards par nous-mêmes. Il sait très bien que c'est impossible. Mais c'est sous sa direction en mettant notre confiance en lui et en mettant notre foi dans le fait qu'il accomplit lui-même ses standards de sa propre justice, que la relation avec lui est établie. Tout comme Adam avant la chute, qui ne pouvait pas reposer sur ses propres forces pour faire le bien, puisqu'il n'y avait pas la connaissance du bien et du mal, au point où ce qu'on le voit après la chute. Mais maintenant qu'on a cette connaissance en nous, on ne peut plus suivre non plus naturellement Dieu comme Adam avant la chute, puisqu'on a été chassé. On est donc prisonnier de cette connaissance qui nous tire vers le mal. Le combat est bien présent et on est tiraillé entre vivre comme on le souhaite ou se plier à la parole de Dieu. Et j'ai une image que je trouve particulièrement intéressante, les branches. L'homme avant la chute et cette branche-là qui est attachée à l'arbre par lequel il peut faire des fruits. Mais une fois la chute arrivée, on est toujours une branche, le même être humain. Mais comme on n'est plus attaché à l'arbre, on n'est plus en mesure de faire ces fruits-là. Et Christ nous reconnecte. Il a écrasé la tête du serpent et pour nous, le combat s'achève. Le livre de Genèse présente celui qui écrasera la tête du serpent comme un descendant d'Ève, donc un homme comme nous, une branche. Et il avait toute l'allure d'un être humain. Et le reste de la parole, à partir de Psaumes plus particulièrement, va nous éclairer davantage sur sa divinité. Mais toujours est-il ici qu'en Genèse, le Sauveur est présenté tout humain. Le lecteur de la Genèse s'attend à voir le Fils de l'homme, un Messie, Fils des hommes. Mais comme l'homme déchu n'est pas une sorte d'homme inférieur ou différent, une sorte d'homme, différent en lui, la connaissance du pourcent. Il avait en lui, ou rien ne nous porte à croire qu'il n'avait pas en lui, la connaissance du bien et du mal, et il a dû soumettre cette connaissance, sa volonté à Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'avais toujours eu de la difficulté à comprendre comment Christ peut être compatissant dans ses tentations ou dans nos faiblesses. Je veux dire, il y avait la puissance de Dieu en lui. Il était Dieu incarné, non? Mais Christ a renoncé à sa puissance. Et je pense que c'est vraiment important de méditer qu'il était aussi 100% homme. Philippiens 2,6 nous dit, « Lequel, en parlant de Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » 2 Corinthiens 8,9 « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Jésus-Christ, à cause de son incarnation et de son humanité, est compatissant. Car il est venu vivre le même combat que nous contre le péché et la souffrance. Hébreux 2, 14 à 18 « Ainsi donc, puisque les enfants participent au chant et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais à la postérité d'Abraham. S'il voulait sauver des anges, ce serait incarné en ange, mais c'est en homme qui s'est incarné. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Christ était comme nous en toutes choses. Il avait la connaissance du bien et du mal, une volonté propre, mais il a toujours soumis sa volonté à celle de son Père. Combien de fois il le répète? Non pas ma volonté, mais la tienne. Je pourrais décider par moi-même, mais je le rejette. Dieu avait créé l'homme pour être en relation avec lui. Aucune créature indépendante de Dieu peut être bonne en elle-même, car il n'y a Dieu, que Dieu de bon. Et la bonté de la création, parce qu'on le voit, Dieu dit, tout ce qu'il avait fait était bon, eh bien cette bonté-là était due au fait que la création était attachée à Dieu. Christ est donc réellement et pleinement semblable à nous. La différence entre Christ et nous, dans son humanité, n'est donc pas une question de nature différente ou un homme plus grand, plus fort, plus de puissance. Mais au contraire, il s'est dépouillé de sa nature divine pour être rendu semblable à nous. Il a été serviteur et s'est soumis lui-même à Dieu, rejetant son indépendance morale qu'il aurait pu saisir. Christ a été tenté, comme chacun de nous, sans avantage. C'est par la force que Dieu lui a donnée qu'il a surmonté les épreuves. Et force qu'il veut nous communiquer en nous attachant à son Père, sachant qu'il nous comprend. Il l'a vécu par expérience. Il est compatissant. Est-ce que vous luttez avec un sentiment d'impuissance face à l'incrédulité d'un proche, une maladie? Christ s'est senti impuissant. Matthieu 13, 58. Et il n'y fait pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes petits et vous ne l'avez pas voulu? Vivez-vous de l'incompréhension ou un sentiment d'abandon dans une situation particulière? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il y a une image que je trouve incroyable que je veux vous partager en terminant. Il y a seulement deux seuls événements dans les Écritures où Satan, le diable, tente directement l'homme de vive voix. En Genèse 3, comme on l'a vu, mais aussi lorsque Jésus va vivre ses tentations. Deux événements où l'homme est tenté de manger par le diable et où la parole de Dieu est mise en doute. Dans le premier événement, tous les arbres sont accessibles. Tous peuvent être mangés, sauf un. Le paysage est merveilleux. Et l'homme qui était soumis à Dieu décide de prendre le fruit défendu et d'accomplir sa propre volonté. Dans le deuxième scénario, le paysage est désert. L'homme est dans le désert, entre guillemets l'homme, okay? Et dans le désert, il ne peut rien manger depuis 40 jours. Et alors qu'il porte une volonté qui est la sienne, il la remet entre les mains de Dieu et se soumet à la volonté de son Père. Le Fils de l'homme a eu sa revanche du serpent au désert, et notre frère a vaincu l'ennemi. Romains 5, 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Mais ayant dit tout ça, c'est vrai que même quand on croit que Dieu existe, le mal ne fait pas toujours de sens. Mais je pense que si Dieu n'existe pas, le mal fait encore moins de sens, parce que le bien non plus n'en fait pas. Le mal, il peut être raisonné en partie, des fois on peut comprendre ce qui arrive. Mais je pense que dans sa nature même, il manque de sens, parce qu'il fait souffrir. C'est pour ça qu'il est mal. S'il faisait du sens, il ferait déjà moins mal. Si vous êtes de ceux qui vivraient des souffrances, des épreuves ou des luttes, une situation autour de vous qui ne fait pas de sens, Dieu nous appelle à lui redonner le fruit, à ne pas essayer de dealer ça nous-mêmes. Il faut abandonner entre les mains de Dieu le désir de tout comprendre. Il sait que sans lui, la connaissance du bien et du mal n'est pas gérable. Il n'y a seulement sa puissance et sa sagesse pour dealer avec ça. Je vous laisse avec un article qu'un frère m'a partagé par rapport aux choses qui ne font pas de sens dans nos vies. Notre famille, nos enfants, frères, sœurs qui rejettent le salut en Jésus-Christ, un enfant malade, un proche qui s'enlève la vie, une épouse ou un mari qui avait toute notre confiance et qui nous abandonne, les abus horribles qu'on peut subir et qui nous laissent violemment amers ou honteux. De si grandes tragédies et le péché ne font pratiquement aucun sens pour nous. Et le plus nous approchons des dommages que le mal fait, plus le chaos et le non-sens du mal nous apparaît. Mais ce que nous savons, c'est qu'on n'est pas équipé pour porter le poids de cette connaissance-là. Cette connaissance est trop complexe pour nous à gérer, mais la vérité miséricordieuse est que Dieu ne nous demande pas de la porter. Il nous demande de lui faire confiance au travers de tout ça. Il nous demande simplement de lui tendre la main et lui rendre le fruit. Et peut-être que ce n'est pas votre situation ce matin. Je me compte parmi les chanceux où je n'ai pas de souffrance immédiate ou de difficulté dans ma vie proche. Et peut-être c'est ce que vous vivez aussi. Puis ma prière, dans le fond, est simple pour vous. Que le Seigneur vous donne les occasions ou vous montre les occasions d'aimer vos frères et vos sœurs qui vivent des souffrances. Je pense que le Seigneur nous appelle à porter les fardeaux pour les gens autour de nous qui ont la vie plus rough. Jésus nous appelle à les porter, les fardeaux les uns des autres, et c'est, je pense, l'essence même de la vie chrétienne. Comme la conséquence de la chute a des impacts sur toute la famille de Dieu, sur toute l'Église, que les conséquences sont relationnelles, c'est à nous que Dieu bénit de faire comme Christ l'a fait et de nous faire serviteurs.